Radio Time.
Bienvenue sur
Fréquence à jour.
Bonjour Cyrielle.
Bonjour Nina.
Bonjour les internautes, bienvenue sur Radio Time Fréquence à Juron.
Pour commencer, faisons un saut dans le temps avec Clément qui nous présente Charlie Chaplin.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un célèbre acteur, Charlie Chaplin. J'ai choisi ce sujet car c'est un acteur que j'aime beaucoup et qui me tient à cœur. Tout d'abord, Charles Spencer Chaplin, dit Charlie Chaplin, est né le 16 avril 1889 à Londres et mort le 25 décembre 1977 à Crozier-sur-Vevey. C'est un acteur, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur britannique. Il a réalisé plusieurs films, tels que Le Kid en 1921. Ce film retrace son enfance, et plus précisément les traumatismes qu'il a eus, tels que l'abandon de son père, ou encore l'instabilité de sa mère due à ses problèmes de santé. Il en dit beaucoup sur sa situation de vie, des signes de pauvreté, habits usés et déchirés, problèmes avec les forces de l'ordre, une vieille maison en ruine, le malheur dans ses yeux est omniprésent. Dans ses films, l'humour est la principale caractéristique. Rendre des situations difficiles de la vie quotidienne, drôle, est une spécialité pour lui. D'autres caractéristiques comme ses films muets ou encore sa silhouette reconnaissable. Moustache, chapeau serré, veste étriquée, pantalon qui flotte et grosse godasse. De plus, le film Le Dictateur est un film satirique américain. Il reproduit la tyrannie d'Hitler en le mimant et en se moquant de lui par rapport à son physique, son idéologie et sa folie politique. Et il nous montre son courage par rapport à la situation de l'époque et à la pression que Hitler émettait mondialement. On peut voir que dans la majorité de ses films, il est souvent son propre réalisateur, scénariste, acteur principal. Cela nous montre que, en plus de réaliser des films muets, il est polyvalent et ose se démarquer des autres en se moquant. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine émission. De plus, merci à Chloé de m'avoir aidé à réaliser cette émission.
Se dore, je notre so che fore, je notre si tavore, je la tu la ti la tua. La spinage o la bouchon, si grette pote bello, si racchi spacaletto, je la tu la ti la tua. Signora Pilassina, voulez-vous la teximite? Le zionta sous la cita. Tula, 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 wa. Se montia si la mora, la sontia so crevora. La zonche, comme soeur, j'ai la peau de sa dilatoire. j'ai notre seule mine, j'ai notre seule consigne. Je laisse trop sa vite, je l'attends sa ville à toi.
Maintenant, passons à Lénie et Émilie qui vont nous raconter l'histoire d'une ville oubliée.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler d'une mystère ville, Pompéi.
Pompéi est une ville romaine au sud de l'Italie qui se situe dans la baie de Naples. C'est le 24 août 79 que se déroule la terrible explosion du Vésuve, qui est un énorme volcan situé sur la colline surplombant la ville. Tous les habitants de Pompéi ignoraient l'existence douteuse de ce volcan.
Comme elle le disait, le Vésuve entra en éruption le 24 août, entre 9 et 10 heures du matin, commençant à émettre de lourds nuages de fumée. Puis vers 13 heures, des gaz toxiques et des pierres ponces se mettent à tomber à flot sur la ville. Les nuages se font de plus en plus nombreux et recouvrent le ciel, jusqu'à plomber la ville dans l'entière obscurité, laissant place aux éclairs. Les habitants, totalement paniqués et affolés, courent dans tous les sens et ne savaient plus quoi faire. C'était la panique totale.
Beaucoup de citoyens étaient asphyxiés par les gaz toxiques que le Vésuve éjectait. Ensuite, vers 1h du matin, des pluies de cendres atteignirent 32 km de haut. Les nuées ardentes ravagèrent la ville et carbonisèrent les derniers survivants pour finir morts, ensevelis par les cendres. Quelques heures plus tard, la ville fut entièrement recouverte. Il n'y avait aucun survivant dans toute la ville. De nombreuses personnes purent assister à la scène de loin sans pouvoir les aider.
Encore aujourd'hui, de nombreux vestiges sont enfouis sous les cendres et la lave. De nombreux archéologues y travaillent. On a pu retrouver des temples, des boutiques, des habitations, et le plus touchant sont les hommes, femmes, enfants et animaux retrouvés carbonisés sous les couches de cendres durcies par le temps. Vous pouvez désormais visiter le site en Italie et y découvrir les vestiges de cette ville morte.
Merci de nous avoir écoutés.
À bientôt.
Passons dès maintenant au problème toujours actuel avec Nina et moi-même.
Fréquence à jour.
Question d'actu.
Bien le bonjour, mes chers auditeurs.
Je vais vous poser une petite question. Combien pensez-vous qu'une femme gagne en moyenne de moins que les hommes ?
Sachez que les femmes n'ont pas toujours eu leur liberté, leurs droits, etc. Ils ne sont arrivés qu'en 1948, en décembre 1948.
Cette année-là, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, adopte la Déclaration universelle des droits des femmes et annonce que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
70 ans plus tard, on constate que les droits des femmes ne sont pas les mêmes que ceux des hommes. Ces dernières sont souvent victimes de discrimination
et de violence. Malgré les nombreux progrès réalisés dans leur travail, elles gagnent environ 16,8% de moins que les hommes. C'est peu, hein.
Prenons pour exemple Malala Yousafzai, une jeune femme de 26 ans qui se bat encore pour le droit des femmes aujourd'hui.
Malala est devenue un symbole international de la lutte pour l'éducation des filles. Après avoir été attaquée en 2012 en raison de son opposition aux restrictions imposées par les talibans concernant l'éducation fille dans son pays, le Pakistan.
Elle a été éduquée par son père, Ziauddin Yousafzai, poète et militant pour l'éducation, propriétaire d'une école de filles.
En 2014, âgée seulement de 17 ans, elle remporte le prix Nobel de la paix, ce qui fait d'elle la plus jeune lauréate de l'histoire de ce prix.
Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.
Radio Time.
Fréquence à jour.
Avant d'aller taguer les murs de votre collège, écoutez nos graffeurs Tarzan et Mowgli. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène artistique, le graffiti. Phénomène qui n'est pas toujours bien vu et autorisé par la loi.
Mais tout d'abord, nous allons vous faire une courte définition. Un graffiti est un dessin sur un mur ou une autre surface visible d'un lieu public.
Il peut être considéré comme une forme d'expression spontanée, parfois comme une forme d'art et en même temps comme une dégradation jugée illégale dans la plupart des pays.
Il faut savoir que le graffiti existe depuis la nuit des temps. En effet, les hommes préhistoriques en faisaient déjà dans leurs grottes. Toutes les peintures et gravures que l'on retrouve aujourd'hui sont en fait les plus vieux graffitis de l'histoire de l'humanité.
Aujourd'hui, le graffiti est mieux vu par l'opinion publique. Grâce à des personnalités comme Banksy, graffeur reconnu, ses œuvres se vendent à 1 million d'euros, comme Devolved, estimé à 500 000 de livres sterling. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, à bientôt.
Déroulons le tapis rouge à Apolline qui va nous présenter le Festival de Cannes. Radio Time.
Fréquence Ageron.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le Festival de Cannes avec Tissam Le Riche et Apolline Lafont. Le Festival de Cannes voit le jour officiellement le 31 mai 1939. Depuis, de nombreux palmarès ont été distribués à de nombreux acteurs et actrices qui ont foulé les célèbres marches rouges du festival. La Palme d'Or est décernée au meilleur film de la sélection.
Mais pourquoi une palme ?
Eh bien parce que c'est le blason de la ville de Cannes depuis le 11e siècle. La première Palme d'Or est décernée à Delbert Mann, un réalisateur californien, en 1950 pour son film Marty. Après lui, 81 réalisateurs ont obtenu la récompense, dont le film Anatomie d'une chute de Justine Triet, une réalisatrice française, la dernière à l'avoir reçue. Mais le jury du festival ne récompense pas seulement les réalisateurs, mais il y a aussi des prix d'interprétation décernés aux actrices et aux acteurs. Le prix du jury décerné au film le plus aimé du jury ou encore le prix du scénario pour le meilleur scénario. Quel que soit le prix, le film ou l'actrice, le Festival de Cannes est le festival dédié au 7e art le plus célèbre du monde. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Fréquence Ageron.
Les vacances approchent et quoi de mieux que de jouer au jeu de cartes avec Steven, Pauline et Marion.
Bonjour et bienvenue à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous parler des jeux de cartes. Je suis Pauline, je suis accompagnée de mes amis Marion et Steven. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir les aspects passionnants et nouveaux des jeux de cartes. Prêt à plonger dans cet univers captivant ?
Absolument Pauline, les jeux de cartes existent depuis des siècles et pourtant, ils continuent de nous émerveiller avec leur polyvalence et leur capacité à rassembler les gens. Mais saviez-vous qu'il existe toute une variété de jeux de cartes innovants qui ont été créés récemment ?
C'est vrai Marion. Prenons par exemple les jeux de cartes collaboratifs. Au lieu de s'affronter, les joueurs doivent travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. C'est une façon géniale de renforcer les liens d'amitié et de favoriser la coopération.
Exactement. Un exemple de jeu de cartes collaboratif très populaire est Anabi. Dans ce jeu, les joueurs doivent communiquer de manière subtile pour poser les bonnes cartes dans le bon ordre. Cela demande une grande confiance et une bonne dose de stratégie collective.
Et que diriez-vous des jeux de cartes à rôle caché ? Ces jeux ajoutent une dimension intrigante où chaque joueur reçoit une identité secrète et doit essayer de deviner qui est qui. C'est un vrai défi de dissimuler sa véritable identité tout en essayant de découvrir celle des autres.
Absolument Marion. The Resistance est un excellent exemple de jeu de cartes à rôle caché. Les joueurs se répartissent en résistants et espions et c'est à eux de déterminer qui est qui. Cela nécessite de l'observation, de la déduction et beaucoup de bluff.
Et n'oublions pas les jeux de cartes qui intègrent des éléments technologiques. Certaines entreprises ont développé des jeux de cartes avec des puces électroniques ou des applications mobiles qui ajoutent des effets spéciaux et des interactions inédites. Cela apporte une nouvelle dimension aux jeux de cartes traditionnels.
Tout à fait, Pauline. C'est incroyable de voir comment les jeux de cartes continuent d'évoluer avec les avancées technologiques. Ils parviennent à se réinventer et à s'adapter à notre époque tout en préservant l'essence du jeu de cartes.
En conclusion, les jeux de cartes sont bien plus qu'un simple jeu de société. Ils sont une source infinie de divertissement, de compétition, de coopération et d'interaction sociale. Que vous soyez fan des jeux de cartes traditionnels ou que vous cherchiez quelque chose de nouveau et d'excitant, il y en a pour tous les goûts.
Et voilà, notre passage radio touche à sa fin. Mais avant de vous quitter, permettez-moi de vous rappeler à quel point les jeux de cartes peuvent être captivants, que vous soyez en famille, entre amis ou même seul. Ils vous promettent des moments de rire, de suspense et de stratégie.
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans une nouvelle émission.
Au revoir.
À présent, nous allons réviser notre anglais avec Marion, Pauline et Steven.
Radio time.
Time. Radio time.
Radio time.
La minute anglaise.
Hello, today we are going to give you news of the English speaking world. Yesterday, it was the training of Trooping the Color. The real day is on Saturday, June 17th. Trooping the Color celebrates the birthday of the King or Queen of England.
Then, Roland Garros tournament had just finished. This year, winner is Novak Djokovic. This is his 94th title. The upcoming championship is Wimbledon. This championship is going to be played in London.
Fraser Island in Australia took its Aborigine name, Kagari, back on Wednesday, June 7th. This island is among the UNESCO sites. 500,000 visitors come every year. Its biggest sand island in the world, it is home to rare and diverse trees, plants and animals.
Thank you for listening to us.
Goodbye. Le film du mois.
Radio Time.
Film et série.
Entrons dans le monde cinématographique de Hunger Games avec Alicia et Awa.
Aujourd'hui, nous allons vous parler des rapprochements entre le film Hunger Games et la société romaine au temps des jeux publics.
Hunger Games est un livre écrit par Suzanne Collins qui a été adapté en 3 films sortis en 2012. Nous parlerons du film dans notre émission. L'intrigue se déroule dans un monde humain post-apocalyptique.
Après que sa sœur a été sélectionnée pour participer à des jeux violents nommés les Hunger Games, Katniss Everdeen décide de se porter volontaire pour libérer sa petite sœur. Elle devra affronter jusqu'à la mort 22 autres adolescents faisant partie de districts différents, ayant entre 12 et 18 ans.
Le fait que Katniss se porte volontaire pour les jeux fait référence à Thésée dans la mythologie grecque, qui se propose lui aussi volontaire comme tribut, une sorte d'impôt, pour aller combattre le Minotaure dans le labyrinthe.
Comme nous l'avons dit premièrement, Hunger Games fait référence au mythe du Minotaure. On choisissait les candidats athéniens offerts par la cité pour maintenir la paix.
Il y avait 7 jeunes filles et 7 jeunes garçons qui étaient considérés comme des tribus ou des offrandes à offrir en pâture au Minotaure pour satisfaire le roi grec Minos.
D'autre part, l'œuvre fait également référence à l'Antiquité et la société romaine, car les jeux qui se déroulent dans Hunger Games sont inspirés des combats de gladiateurs dans les arènes à Rome. Ces hommes combattaient jusqu'à la mort pour le plaisir du peuple et de l'empereur.
Par ailleurs, le pays où se déroulent les Hunger Games se nomme Panem, nom qui vient du latin panis et qui signifie pain. C'est un clin d'œil à l'expression latine Panem et Circenses, qui veut littéralement dire du pain et des jeux.
Dans le film, les habitants du Capitole adorent les Hunger Games au même titre que les Romains adorent les jeux publics. Ce sont des événements qui n'arrivent qu'une fois par an et qui divertissent le peuple. Les Romains ne vivaient en effet que pour les jeux du Colisée.
Enfin, dans l'œuvre de Suzanne Collins, beaucoup de noms sont empruntés au latin et à l'antiquité, comme le nom du président Coriolanus Snow, faisant écho à un républicain romain nommé Caius Marcius Coriolanus.
Voici donc une partie des références antiques et mythologiques dans la dystopie Hunger Games.
Merci de nous avoir écoutés.
Êtes-vous prêt à suivre votre entraînement avec les coachs Cyrielle et Nina?
La rubrique sport active.
Hello, hello les sportifs!
Avant de commencer, petite question. Trouvez-vous normal que le football écrase tous les autres sports?
Moi, je trouve que non. Car nous-mêmes faisons un sport, le handball.
Quoi? Vous connaissez pas?
Ok, on va vous faire une brève présentation.
Le handball est un jeu d'équipe avec un ballon, le but marqué et surtout s'amuser.
Dans le handball, nous sommes en équipe composée de 7 personnes, mais nous pouvons être plus, sauf sur le terrain.
Nous allons vous présenter les rôles, car chacun des joueurs a son rôle lors des matchs.
Le pivot est dans la défense de l'équipe adverse afin de perturber et faire des failles pour ses coéquipiers.
Le demi-centre est au centre, comme vous le doutez. Il sert à distribuer le jeu et indique comment se positionner.
Les arrières. Ils servent à mener le jeu, de lancer les attaques. Il a également un rôle de relais entre le demi-centre et l'ailier.
Les ailiers sont placés à l'extrémité du terrain. Leur rôle est de courir très vite vers la cage du but adverse pour recevoir la balle.
Le rôle du gardien est de protéger ses cages des buts adverses. Dis Nina, comment fonctionnent les matchs?
Alors au début, l'équipe va élire un capitaine qui va présenter un ballon à l'arbitre. L'équipe adverse va aussi élire un capitaine qui va aussi présenter un ballon à l'arbitre. Et l'arbitre va choisir lequel est le meilleur.
Les deux capitaines s'échangent leurs ballons de chaque équipe. Puis ils voient que l'arbitre qui est mieux, c'est l'arbitre qui tranche. L'arbitre y met son sifflet dans une des mains et il demande s'ils veulent attaquer ou défendre en premier et quel côté du terrain ils veulent. Ensuite, il demande à la table qui s'occupe de marquer les buts s'ils sont prêts, au gardien. Les joueurs se mettent tous en ligne pour avancer et se faire applaudir par le public. Puis après, le match commence.
Le match, c'est 2 fois 20 minutes. Avec une mi-temps de 10 minutes.
À peu près, c'est suivant.
Où l'équipe va vers son capitaine.
Vers son entraîneur pour améliorer ou suivant. Puis pendant les mi-temps, il y a des temps morts aussi. C'est pour un moment, si les joueurs sont fatigués, ils font un temps mort. Ils ont quelques secondes pour discuter et améliorer. Puis après, il y a la fin et défaite ou victoire.
Notre club, c'est le club Ruyons Vallon.
Et puis si vous êtes intéressé pour faire un sport l'année prochaine, on voudrait bien former une équipe de filles.
Moins de 15 filles.
Voilà. Si vous avez entre 13 et 15 ans, on vous accueillera l'année prochaine à bras ouverts.
Merci de nous avoir écoutés.
À bientôt.
C'était Radio Time.
Fréquence Ajoron.
Présenté par les élèves
du collège de Vallon-Pont d'Arc.
Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve la prochaine fois.
Au revoir.